Bazooka saison 1 épisode 8. Ouais. Après ouais. Après
ouais. Top.
C'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Ce que vous me faites, c'est énorme. Après 2 mois d'absence, c'est énorme. Merci. Après quasiment 2 mois d'absence, Bazookast revient dans vos écouteurs. Et d'abord, je vous dois quelques explications. Des soucis techniques, quelques petites mésaventures personnelles, des problèmes de disponibilité liés au boulot. Bref, je vous ai complètement abandonné pendant presque 2 mois. Et à ma grande surprise, l'audience n'a pas chuté. Il y a toujours les fidèles de Bazookast. J'ai reçu beaucoup d'emails de gens qui, impatiemment, attendaient ce Bazookast. Ce Bazookast saison 1, épisode 8. Et en plus, c'est un spécial musique électronique. Bazookast, saison 1, épisode 8. Bazookast, presque en direct et presque en public. Un spécial musique électronique pour ce Bazookast. Alors, pour les personnes qui écoutent cette émission pour la première fois, le principe de Bazookast, c'est de vous faire découvrir le meilleur de la musique libre sur Internet. Des artistes décident de mettre à disposition gratuitement leurs morceaux, librement téléchargeables, des morceaux que l'on peut faire découvrir, partager entre amis, envoyer. Alors, c'est possible par le biais de licences, telles que la licence Creative Commons, qui est une des plus connues, et d'autres licences, on va en découvrir certaines, notamment aujourd'hui, qu'ont choisi certains artistes techno. Alors voilà, musique électronique. Alors le programme, on va aller dans le sud de la France. Beaucoup d'artistes qui viennent du sud, Marseille, Toulon, on va même aller à Ajaccio, on va aller en Suède, on va aller à Londres, bref, beaucoup d'artistes qui, depuis leur chambre moite, triturent des engins pour vous faire taper du pied, pour vous faire rêver. Je veux que, pour ce numéro, on danse, on bouge les chaises et on fait... On bouge son petit popotin. Ça va être très chaud ce soir. Et je vais essayer de couvrir le spectre le plus large possible en termes de musique électronique. Et enfin, dans ce Bazookast spécial musique électronique, une interview qui me tient très à cœur. Si je vous dis Laurent Garnier, si je vous dis Mister Oiseau, si je vous dis A Reminiscent Drive, oui, c'est le label F-Com, un des pionniers de la musique électronique et de la techno en France. Et nous aurons le grand plaisir d'interviewer Eric Morand, le fondateur de ce label. L'actualité de F-Com est chargée en ce moment, avec notamment une restructuration du label. Et on va pouvoir, par le biais de cette interview, voir toutes les difficultés que peut représenter l'évolution de l'industrie musicale pour un chef de label, un responsable de label qui essaye surtout de partager sa passion. Donc interview d'Éric Morand vers la fin de cette émission. On va commencer tout de suite avec un excellent artiste qui s'appelle Mengus, dont je vous présenterai le portrait juste après le morceau. Ça bouge, c'est bon. Ça s'appelle USB Hats. Il vient de Marseille. On écoute Mengus sur Bazookast. JC, Mengi, alias Mengus sur Beizoucast. Alors, petit portrait de Mengus. Mengus s'occupe à Marseille avec deux comparses, Poborsk et Wanker, une cellule de production qui s'appelle Plastic Passion. Alors, voilà, Mengus, il a rencontré Poborsk il y a 10 ans à Marseille, au sein d'un groupe électro-rock du nom de Janine. Et ça fait 6 ans qu'il fait avancer Plastic Passion avec Poborsk et Wanker. Alors le son de Plastic Passion, dont je vous mets l'adresse en dessous de ce podcast, va de l'électronica à la techno en passant par l'électro, nous dit Mengus. Plastic Passion nous permet de diffuser notre son, mais diffuse aussi d'autres artistes dans nos compiles. Plastic Passion Web Sampler volume 1. Pour info, la compile Plastic Passion Web Sampler volume 2 sort dans quelques semaines et elle compte des tracks d'artistes étrangers. Alors pour le son de Mengus, il pense être radicalement orienté vers la dance. Ce truc qui fait lever les humains et bouger le cul, quoi. C'est ésotérique pour lui. Alors il essaye de s'y coller. C'est un mordu des productions des Black américain, soul, jazz, funk, electro, house, techno, booty bass. Les influences vont de Détroit à Chicago, Underground Resistance, Drexia, Mad Mike, Robert Hood, Jeff Mills, Oxide 8 et en Europe aussi, Kraftwerk, Christian Vogel, les prods du label Trésor. Mengus essaie de produire des tracks toujours très groove en travaillant sur les textures sonores avec un son chaud. On a pu entendre truc couvert dans ce morceau USB 8. Il utilise des synthés, des effets, l'ordi, mais il joue toujours avec un clavier. Il ne peut pas concevoir sa musique avec comme seule interface la souris de son ordi. Alors voilà, Mengus sort dans 3 semaines 10 nouveaux morceaux sur Plastic Passion, beaucoup plus électro et moins techno que son premier EP. Alors pour ses nouveaux tracks, il essaye d'être moins expérimental dans les sons, plus de synthés, de vocodeurs, le tout tourné vers la dance. En tout cas, Mengus, je te remercie d'avoir répondu à ces questions sur Bazookast. On a entendu un de tes morceaux derrière ce portrait. Le titre sera disponible dans les crédits de Beizoucast. Beizoucast réconcilie la France avec la France. Pro-CPE, anti-CPE. Baissez cette pancarte et pour quelques poignées de dizaines de minutes, faites la trêve. Enlacez-vous par la taille. Regardez le ciel et profitez d'une bien bonne musique. Regardez les alouettes s'envoler. Écoutez la musique qui pénètre vos tympans. Regardez-vous dans les yeux et dites-vous, est-ce que tout ça vaut vraiment le coup? Profitez de l'émission. Savourez. Et puis après, la lucha pourra continuer. Écoutez, je me suis dit, quitte à faire entendre un peu ce qui se fait en musique électronique, autant faire découvrir cette grande tendance. Alors, ce n'était pas deuxième degré. C'est un vrai retour au son un peu 8 bits, réalisé sur Game Boy ou Commodore 64. C'est une vraie tendance et on vient d'écouter le groupe qui s'appelle Arpa. Le morceau s'appelait Mustard. Et c'est un label suédois, un label qui s'appelle Wax of Sweden à visiter. Beaucoup d'artistes très différents. Donc oui, c'est une vraie tendance et vous en connaissez un si vous êtes fidèle de Bezucast. C'est l'artiste Jared Burke, _AA_, un des parrains de l'émission. Il était là à l'émission numéro 1. Alors je l'ai recontacté faisant une émission spéciale musique électronique en lui demandant « As-tu une dernière création à nous faire écouter ?» C'est un petit génie qui vit reclus dans le Missouri, je crois. Qui fait de petits bijoux, qui a 50 fans dans le monde, et j'aime les talents cachés, surtout lorsqu'ils sont comme Jared Burke. Alors, il nous a envoyé un petit quelque chose. Comme d'habitude, c'est de la diamanterie d'Anvers. On sent la carte mère qui grésille dans cet ordi en plastique, perdu dans la nuit humide des nuits américaines. On voit le ketchup qui dégouline le long de ce métal froid. Je vous invite à écouter _AA_, le parrain de Bezucast. _AA_, avec le morceau Resting. Son parc informatique ressemble à un épisode de l'inspecteur Derrick, et ne vous y fiez pas, c'est un vrai nostalgique de la technologie qui nous fait un son, un univers tellement propre à lui, ce Jared Burke. C'est vraiment un grand plaisir de l'entendre. Quelquefois dans la dance, plus c'est con, plus c'est bon. J'ai écouté ce morceau qui nous vient de Londres et j'ai complètement gragué. Vous allez adorer ça sur Bezucast. C'est Gods and Monsters qui nous interprète pour vous directement dans votre oreille. Underfire, j'adore.
Turning back, see me drink colored light, floating through the foggy white. I am the beat conductor, skipping off destruction. Sound. Keep you dancing round and round.
Hey, c'est bon, ça se prend pas la tête. Qu'est-ce qu'on s'emmerde à se prendre la tête quand on a des petits morceaux comme ça super gays. Alors ça me fait penser un peu aux Chicks on Speed pour ceux qui connaissent. Si vous ne connaissez pas, si vous avez aimé ce morceau, allez voir du côté des Chicks on Speed. Alors bien sûr, les Chicks on Speed c'est plus pointu, c'est un peu plus recherché au niveau du son, mais voilà, c'est moi j'aime bien, c'est festif, c'est anglais, ça vient de Londres, c'est Gods and Monsters. Tout ça, c'est de la musique libre. Alors, dans le cas particulier de Gods and Monsters, c'est sous une licence qui n'est pas Creative Commons. Je ne connaissais pas cette sous-licence particulière. C'est Open Music License Yellow. Alors, il y a des classifications comme ça. Grosso modo, c'est kiff-kiff avec Creative Commons. C'est-à-dire, vous pouvez la télécharger, l'écouter, la passer, etc. Et pour tout ce qui est de l'ordre de l'utilisation commerciale, vous demandez l'autorisation aux artistes. Alors, on va écouter quelqu'un d'énorme, que j'aime beaucoup, qui vient de Marseille, que j'ai découvert simultanément à Mengus. Ils viennent de deux horizons différents, mais ils viennent tous les deux de Marseille. On commence à passer la vitesse supérieure, là, les gars, au niveau du son. Si vous n'êtes pas familier avec la musique électronique, c'est bien de rester. C'est bien que votre oreille se familiarise avec certains sons. Faites l'effort sur ce Bazookast. Je vous demande d'accueillir, comme il se doit, le jeune Yanken Pop. C'est bon. Alors ça, c'est du son. Voilà, ça vous ouvre des horizons. Alors Yanken Pop, il vient de Marseille. Son historique, son portrait. Il a appris à faire de la gratte sur des trucs comme Rage Against the Machine ou RHCP. C'est quoi RHCP? RATM. Red Hot Chili Peppers. Il a ensuite passé 2 ans dans une académie de jazz. Il a surtout étudié le blues de gens comme Robert Johnson. Et il a fini par lâcher pour diverses raisons. Alors, il a ensuite entamé une série de recherches sonores plus inspirées par des références dada et situationnistes qu'autre chose. Un situationniste, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Puis, petit à petit, j'ai commencé à développer un univers plus personnel dans mon coin, à m'intéresser au processus de compo, aux notions de gestes, de ludique, de ludisme, de cut-up, à la fabrication d'outils instruments interactifs. Alors, le gars, c'est pas un rigolo parce que il y a 3 ans, il faisait partie d'un groupe de travail qui s'appelait Playmobil. Ils programmaient sur Game Boy et ils allaient dans les rues faire du son sur des Ghetto Blasters. Alors, ça devait être quelque chose. D'un commun accord, nous avions décidé de mettre tous nos programmes sous la licence Creative Commons et d'en distribuer librement les sources. Donc on voit le gars, hein. Formation, compo sur Game Boy, musique sur Creative Commons, si ça c'est pas la nouvelle génération, moi je me fais none. Alors, depuis la plupart de la musique que je produis est accompagnée de cette licence libre, j'aime que chacun puisse se réapproprier mon travail par l'utilisation de mes outils, le sample, la retransformation. Pour moi, cette forme de retour sur mon travail est très importante, elle correspond à la même forme de générosité que j'ai appris dans la culture punk pendant mon adolescence. Très intéressant ça, Young and Pop. Tu touches à quelque chose d'important au niveau générationnel. Alors, par exemple, et là c'est vraiment pour les auditeurs un exemple précis de ce qu'on peut faire avec Creative Commons. Cette année, un jeune américain a adapté 2 de mes morceaux pour le jeu Stepmania, sous licence libre, qui se joue sur tapis de danse. Un Suédois qui pratique le freestyle football, un nouveau sport de rue qui émerge en Europe, c'est-à-dire grosso modo, c'est comme le football mais dans la rue avec une hache. Il m'a contacté pour utiliser un de mes morceaux tech sur un DVD collectif avec lequel il espère pouvoir étendre ce mouvement. De mon côté, j'essaie de participer moi aussi à la fête en remixant des groupes en Creative Commons que j'aime beaucoup et en essayant de lancer des projets collectifs sur le net. Voilà, merci Janken Pop. Je sais qu'il préférait que je dise Janken Pop, mais j'aime bien Janken Pop. Alors maintenant, nous allons parler beatbox. Et non, je vous vois venir, beatbox ne veut pas dire boîte à beat. Beatbox, vous savez, cette discipline qui consiste à faire un rythme avec sa bouche, comme par exemple... voilà, comme ça, mais sauf que les gens le font bien. Alors, quand la beatbox se met à imiter la musique électronique, c'est une chose. Mais quand la musique électronique se met à imiter la beatbox, on atteint là des sommets. Et c'est ce morceau qui s'appelle Beatbox Tricks sur Bassoucast. Mon dieu, je n'ai pas le nom de l'artiste. Thank you. C'est comme si on était aspiré. Oui, l'artiste, c'est Digital Bastard, et je sais pourquoi je me suis trompé, parce qu'il officie sous deux noms. C'est David de Castro, en réalité, et il fait de la musique aussi sous le nom de Segfault. Sur musique-libre.org, vous pourrez entendre des morceaux de Segfault. Moi, j'en ai un, c'est de Segfaultation, et je peux vous dire, c'est pas de la musique électronique pour les fillettes. Hein. Ça balance pas mal, Segfault. Allez l'écouter sur cet excellent portail où j'ai trouvé beaucoup d'artistes de ce soir. Je suis également allé sur Opsound, sur Podshow, et par cooptation, par relation, et d'autres artistes se sont présentés à moi. Je voudrais maintenant vous présenter un producteur berlinois qui s'appelle Vernon Lenoir. Alors, il est sur un label qui s'appelle Ego Twister, toujours en musique libre. Son dernier album est en téléchargement complet sur son site. Il s'appelle Sator Arepo Tenet Opera Rotas. Quelle est la particularité de cette phrase? Elle se lit dans les deux sens. C'est un palindrome, comme le mot laval, comme le mot radar, ou élu par cette crapule. Ça se lit dans les deux sens. Bref, Vernon Lenoir, il est bizarre, du très gros son, et je vous propose de l'écouter tout de suite sur Bazookast. Avec Landini. Bayzoucast. Rares sont les musiciens qui électroniques qui font des morceaux courts, qui ont l'humilité de faire passer l'essentiel sur une durée restreinte. Et Landini est fort, il fait souvent des petites galettes qui font la minute, une minute dix, une minute trente. Et c'est un peu le cas du prochain artiste qu'on va écouter, Shape 2, avec un morceau qui s'appelle Drotheic. On reste toujours dans le chill out, un peu plus désespéré sur Bayzoucast. Drotheic. Pour moi, c'est la bande-son d'un reportage de Cousteau qui aurait plongé là où il n'aurait pas dû. Très très bon morceau. Et bien maintenant, nous allons passer à l'interview Bayzoucast. Et c'est vraiment une interview dont je suis fier. Il a créé le label FCOM avec Laurent Garnier en 1994. Il s'agit d'Éric Morand. Alors, FCOM, c'est Laurent Garnier, bien sûr, le pape de la techno française, le premier artiste électronique à avoir remporté une victoire de la musique, à avoir démocratisé la musique électronique et la techno. FCOM, c'est aussi des très gros succès, comme Saint-Germain, et comme aussi Mister Oiseau. Je pense que vous vous rappelez de cette petite marionnette jaune. Bref, un label qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup fait pour la musique électronique française, et qui a une actualité un peu grisouille avec... un changement de structure en décembre ou janvier, je crois. Eric et Laurent ont dû alléger la structure de FCOM et se séparer de certains collaborateurs qu'ils avaient depuis des années. Donc, on va poser quelques questions à Eric. Salut Eric, merci d'être sur Bayzoucast. Alors, comment expliques-tu la contrainte que vous avez eue en décembre-janvier de vous séparer de certains de vos collaborateurs?
Il y a multiples raisons, quoi. Je veux dire, déjà, il faut voir une chose. Donc, FCOM existe depuis 12 ans, historiquement, de 94 à 98, grosso modo, quand on a lancé FCOM avec Laurent Garnier. On était parti sur l'idée qu'on voulait que FCOM soit une structure extrêmement légère, vraiment concentrée sur tout ce qui est créatif. Et en fait, on va dire tout ce qui était un peu logistique, administration, qui est nécessaire à la vie d'un label, était externalisé chez notre distributeur qui est Piaz, quoi. Donc, je sais pas, tous les envois de disques, la promo, la comptabilité et tout. 98, à partir du moment où le label s'est vraiment développé, où la musique électronique a été très importante, on a eu des succès albums importants, c'est vrai qu'on a commencé à on va dire, prendre un peu plus notre indépendance par rapport à Piaz. Donc, c'est vrai qu'on a commencé à grossir la structure, avoir quelqu'un qui s'occupait du marketing, une personne pour la promo, etc., etc. Et voilà, jusqu'à 2003, où là on a commencé un peu quand même à se poser des questions parce qu'on voyait les marchés décliner, et que c'est vrai qu'on a toujours été très attaché au fait que les questions budgétaires ou structurelles pèse sur les choix artistiques, c'est-à-dire qu'on soit obligé de changer le style musical, on n'a pas envie de sortir ce qu'on n'aime pas, et on n'a pas envie de mettre une pression financière sur les artistes. Donc on a allégé la structure. Ensuite, c'est vrai que depuis 4 mois, avec Laurent, on se posait beaucoup de questions. On voit tous nos confrères, enfin les labels similaires à FCOM, qui justement font un espèce de retour à des structures extrêmement légères. Donc c'est vrai qu'on se dit, bon ben voilà, ça fait quand même 3 ans qu'avec FCOM on est malmené comme tous les labels parce qu'on a un chiffre d'affaires qui baisse. Donc on se dit, bon ben voilà, c'est vrai que la raison pousse à ça. C'est vrai aussi qu'en général, les médias offrent de moins en moins de place aujourd'hui pour la musique et aussi pour la musique électronique. Donc c'est vrai qu'on peut se poser la question de à quoi ça nécessaire d'avoir une personne qui appelle tous les jours les radios, si c'est pour se faire envoyer chier par les radios qui disent nous on joue que du rock et de la chanson française. Voilà, c'est déjà l'interrogation. Et c'est vrai qu'ensuite, ce qui a été déterminant, parce que FCOM c'était une structure de 4-5 personnes, quoi, c'est depuis un an. Et c'est que quand on a un retard sur les principaux gros albums, c'est-à-dire un album de Lorca, un album de Galliano, un album d'Avril, qui sont pas encore prêts, finis, les gens ils se tournent un peu les pouces au bureau, quoi. Donc tout ça mis bout à bout, on s'est dit bon, l'intelligence, c'est pour qu'on ait totale liberté pour l'artistique de faire vraiment tout ce qu'on veut, de partir sur des projets peut-être un peu plus aventureux, parce que c'est vrai que depuis 4-5 ans, par moment, il y avait des trucs musicalement qu'on trouvait vachement intéressants, mais on disait bon, on a un staff de 5 personnes, on est obligé de voilà, on est obligé d'avoir des projets quand même qui sont un peu gros, et ça nous embêtait. Donc c'est vrai que tout ça mis bout à bout avec Laurent, on s'est dit bon bah voilà, je veux dire, on a envie quand même que ce label dure. On sait que si on continue dans cette structure là, on va être obligé d'arrêter parce que financièrement on tiendra plus. Et voilà, donc tout ça mis bout à bout, ça a été un déchirement parce que c'est vrai qu'il y a des gens avec qui on travaille depuis 7 ans et qu'on a une proximité quoi avec tous les gens avec qui on travaille. Mais en même temps, c'est à ma grande surprise extrêmement bien compris par tout le monde. Et voilà, c'est pas du tout un truc conflictuel. C'est pas... Voilà, les gens comprennent et c'est vrai qu'on est conscient aussi qu'on a un peu déclenché un électrochoc, que des pires rumeurs sont parties sur FCOM, mais non, on est toujours là. Mais je pense qu'à un moment il faut être aussi le rôle d'un label, c'est aussi par moment d'être lucide et voilà, et on se sent responsable vis-à-vis des artistes qui ont travaillé, des gens, et vis-à-vis des gens qui aiment FCOM, et on sait que les gens sont attachés à la durabilité de FCOM. Ouais.
Alors Eric, je suis tombé sur une interview de toi et d'Atin d'il y a 3 ans, et une chose qu'on peut pas dire, c'est que tu n'as pas senti le vent venir, parce que je lis dans cette interview, alors, le business du disque, j'irais même plus loin en disant le business du mauvais disque, est dans une situation très délicate aujourd'hui. Je suis dans une colère noire contre l'ensemble de l'industrie du disque parce que je pense qu'elle a complètement raté le virage d'Internet et des nouveaux formats. Je pense que le seul nouveau format existant à l'heure actuelle réside dans le téléchargement et surtout dans la dématérialisation de la musique. Alors attention, je rappelle que c'est il y a 3 ans. Face aux 3 années de crise qui nous attendent, la seule solution pour nous, c'est de réduire la voilure, de laisser passer la tempête et en espérant de pouvoir passer au travers. C'est très dur à vivre, mais cette crise aura finalement du bon puisqu'elle va assainir le circuit et obliger les acteurs de cette industrie à se remettre en cause.
Mais je ne pense pas un mot de ce que j'ai dit. Ma colère sur tout le truc internet, elle remonte même à avant 2003, quoi. Et c'est vrai que je dirais même que pour compléter, pour moi, la seule véritable avancée technologique depuis l'arrivée du CD, ça va être le développement du téléchargement, enfin l'utilisation du téléphone portable. Pour vivre la musique ou la vidéo, parce que je pense que, je veux dire, ça amène la totale mobilité, c'est-à-dire que l'ordinateur pour moi est encore un truc un peu on est obligé de rester chez soi bloqué derrière un écran. Avec le téléphone, on va pouvoir vraiment consommer de la musique complètement instantanément. Alors ensuite on peut parler de la qualité de la musique, etc., ça c'est autre chose, mais il y a une vraie avancée technologique sur la façon de consommer, tout comme le CD a quand même amené un truc en plus par rapport au vinyle. Donc voilà, mais c'est vrai que oui, malheureusement, je pense que par moment j'ai pas que des mauvaises idées quand je dis des choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi personnellement, quand les gens me disent est-ce que tu penses que va y avoir une fin à la crise, je ne suis pas sûr, c'est-à-dire que je ne suis pas du tout convaincu que le modèle, un modèle avec du téléchargement légal, avec une espèce de nouvelle économie digitale qui se mettrait en place, bien sûr il est souhaité par tout le monde, et quelque part je pense que c'est une bonne chose qui peut arriver à l'ensemble des musiciens ou des artistes, mais je ne suis pas sûr du tout que ce modèle va vraiment s'installer durablement, parce que je pense qu'aujourd'hui c'est quand même le consommateur qui décide si les modes de consommation qu'on lui propose lui conviennent ou non, et que malheureusement la notion de gratuité par rapport à la musique sur le fait de posséder un morceau, quoi, je prends même plus disque, mais posséder un morceau, elle devient quand même pour beaucoup de gens maintenant, cette notion de gratuité elle est partout, voilà, et que je la vois aussi maintenant quand même de plus en plus se développer par rapport aux concerts, où on voit qu'il y a de plus en plus de lieux qui font quand même 4 groupes, entrée gratuite, et en fait toute l'économie se génère sur le bar avec des groupes qui sont des fois d'ailleurs même pas payés. Et donc voilà, donc c'est vrai que je ne sais pas ce qui sortira de tout ça. Je pense qu'il faut juste imaginer que la gratuité, enfin grosso modo la gratuité totale par rapport à la musique, c'est ce qui a existé avant la Seconde Guerre mondiale, et ça voulait dire quand même que beaucoup d'artistes, ils travaillaient à l'usine et ne vivaient pas de leur passion, et il y en a beaucoup qui ont vécu dans la misère jusqu'à la fin de leur vie. Donc voilà quoi. je ne sais pas qu'est-ce que en même temps je suis pas un fou furieux du DRM quoi.
Et en ce qui concerne le projet de loi d'AFTSI et cette fameuse idée de licence globale qui avait été mise à l'avant puis retirée par le ministre de la Culture, t'en pensais quoi toi?
Moi sur l'histoire de la licence globale, je trouve qu'il y a je ne peux pas y être favorable parce que je vois déjà aujourd'hui comment les sociétés de perception de droit répartissent ne serait-ce que la copie privée, etc. Et je crois qu'il y a de quoi hurler et bondir. C'est-à-dire que quand je vois par exemple que sur la musique électronique, pendant des années, je veux dire des sociétés comme l'Adami et la Stelida n'ont pas reconnu aux musiciens électroniques juste le statut de musicien. Ils étaient, je veux dire, parce qu'ils bossaient avec un ordinateur, ils n'étaient pas. Et je veux dire, les sommes qui sont réparties, moi je vois ce que touchent les interprètes et musiciens qui sont sur FCOM de la Dami et de la Stelida, c'est une plaisanterie, c'est un gag. Et de toute façon, tant qu'on ne pourra pas identifier chaque œuvre, je voudrais bien m'expliquer comment on va vraiment pouvoir répartir les sommes qui seront collectées. Donc je pense que même si on peut avoir en effet beaucoup de reproches à faire sur la gestion des DRM, sur la toute-puissance de Microsoft, de Apple, sur la non-interopérabilité de ces systèmes, et ça je suis entièrement d'accord sur tous ces éléments-là, ça ne justifie pas qu'on part du principe que les gens vont accepter de déclarer, oui, je vais accepter de payer 7 euros. Enfin, je veux dire, et puis, il faut se mettre dans un système global. Là, c'est un raisonnement franco-français. L'ensemble de la planète a quand même aujourd'hui reconnu, grosso modo, la notion de droit d'auteur et la notion de... on va rémunérer les gens à partir du moment où on achète des morceaux et tout. Et tout d'un coup, la France dit, mais nous, on n'est pas d'accord. Et je pense que par rapport à la musique, la première chose, c'est de se mettre quand même dans une espèce de vision globale. C'est comment ça se passe sur la planète. Et voilà. Alors, soit, je veux dire, c'est hallucinant de voir un système qui a été validé par l'Europe entière. Et tout d'un coup, t'as la France qui dit, nous, on n'est pas d'accord.
Et en parlant de téléchargement légal, quelle est exactement la proposition, l'offre de FCOM par rapport à son catalogue? Est-ce que vous vendez vos morceaux MP3 sur votre seule boutique ou vous êtes présent sur d'autres plateformes? Comment ça se passe, FCOM et l'MP3?
Enfin, historiquement, on a toujours suivi le dossier depuis très longtemps. Hein. C'est-à-dire que moi, si j'ai eu mon premier accès Internet au bureau, ça devait être en 95 ou 96. Et je veux dire que je m'en servais assez peu à l'époque quand même, vu la ramerie que c'était. Et on a fait nos premières expériences de téléchargement avec une société qui s'appelait Audiosoft, qui bossait d'ailleurs avec la FNAC, je crois vers 98 ou 99. Donc vraiment très très tôt. En fait, depuis 2 ans maintenant, on a vraiment digitalisé tout notre catalogue avec Piaf, qui est notre distributeur, et grosso modo l'intégralité du catalogue FCOM est disponible aujourd'hui sur l'essentiel des plateformes, donc sur les iTunes, sur les Fnac, sur les Karma Download, etc., sur Blip. On a un artiste qui aujourd'hui refuse complètement les droits digitaux, qui est Saint-Germain, mais qui a la même approche vis-à-vis de ses titres qu'il fait sur Blue Note. Donc ça, c'est les seuls titres qu'on ne peut pas offrir. Mais sinon, l'ensemble des artistes FCOM aujourd'hui sont disponibles. Alors, c'est vrai qu'on va justement améliorer les choses pour que les gens le voient un petit peu mieux sur le site FCOM. Parce que c'est vrai qu'on arrive sur le site FCOM, on ne voit pas obligatoirement le fait qu'on a d'offres digitales aujourd'hui sur toutes les grandes plateformes. Quoi.
Ok, Eric, le plus gros succès commercial de FCOM, ça a été quel artiste sur ces années?
Le plus gros succès commercial pour FCOM, ça a été Flatbeat, Monsieur Oiseau, clairement. D'accord. En Europe aussi, ouais. Enfin, je veux dire, en tant que single, ensuite en tant qu'album, on va dire que ça tient un mouchoir de poche entre Laurent et Saint-Germain, l'album Boulevard, quoi, qui maintenant, on s'est vendu avec les années, a dû vendre maintenant plus que Laurent. Mais voilà, c'est ces deux albums-là qui sont les plus gros en France. Quoi.
Et une question qui n'est pas forcément liée au succès commercial, quel est, toi, le projet que tu as mené dont tu es le plus fier sur FCOM?
Le projet dont je suis le plus fier, c'est très difficile. Moi, c'est vrai qu'il y a un album dans l'histoire de FCOM auquel je suis extrêmement attaché, c'est l'album Mercy Street de Reminiscence Drive. Parce que je pense que c'est un album, quand on l'écoute aujourd'hui, qui a gardé toute sa magie. C'est un album vraiment étonnant. Et voilà, et c'est un album qui, je trouve, n'a pas eu... Enfin, je veux dire, c'est vraiment un espèce de succès d'estime. Et pour moi, c'est un album extrêmement accessible et qui pouvait vraiment toucher le plus grand nombre. Et qui, quelque part, n'est resté que dans un public un peu branché, quoi. Voilà. c'est un peu ma faute.
Alors, justement, au niveau de ce positionnement, comment tu vois, toi et Laurent, évoluer artistiquement FCOM là, pour les années à venir, d'après
toi? C'est la question piège. Si vraiment, Laurent et moi, on avait des talents de voyants comme ça musicalement, je pense qu'on serait blindés de pognon, on serait toujours au sommet des hit-parades. Et voilà, non, c'est continuer à faire surtout ce qu'on a envie de faire musicalement. Là, on a des projets de nouvelles signatures qui vont arriver sur FCOM. C'est vrai qu'on a, il y a un an, on a pris la décision de moins en moins se prendre la tête avec les ventes. Donc on dit les temps sont durs, ça peut s'arrêter demain, donc faisons-nous plaisir au maximum et n'essayons pas de nous prendre la tête en disant qu'est-ce qu'on va vendre, etc. Donc c'est vrai qu'on a vraiment, il y a deux ans, on s'est dit quand même, on voit qu'il y a des gens pour qui FCOM c'est super important dans leur vie, ils passent du temps sur le site FCOM, ils vont sur les forums, ils expriment des choses, on se sent redevable vis-à-vis de ces gens et donc on va essayer de leur donner le meilleur de ce qu'on aime en musique. Donc c'est vrai que de là sont arrivées les signatures de Vista Levis, Sao Paris, Maxence Sirin et voilà. Donc c'est vrai qu'on est dans quelque chose musicalement où on n'a pas envie de faire de concessions, on n'a pas envie de se faire chier avec les radios, les télés. On a envie de faire vraiment de la musique et des choses profondes, que même si demain ça s'arrête, on puisse être fier et que les gens, ce que j'espère, c'est que dans 10 ans ou dans 20 ans, les gens diront, putain, c'est un pur label. Et voilà, c'est vrai qu'avec Laurent, depuis 2 ans, enfin depuis qu'on a fêté les 10 ans, on considère vraiment qu'on est dans une espèce de renaissance de FCOM, dans le sens où voilà, je veux dire, on voit aussi qu'il y a aujourd'hui une nouvelle génération, c'est-à-dire des gens qui découvrent FCOM depuis 2-3 ans, mais qui n'ont pas forcément tout l'historique des 10 dernières années écoulées. Il y a une nouvelle génération en musique électronique, voilà, donc c'est assez intéressant, et il y a un nouveau combat, parce que c'est vrai que apparemment la musique électronique, les gens disent voilà, il y a un nouveau combat par rapport aussi à l'industrie du disque qui se pose des questions, enfin voilà. Donc c'est vrai qu'on, avec Laurent, on est je pense des gens de combat, quoi. Voilà, on n'est pas des gens à l'aise dans les périodes où tout va bien, etc. Voilà, on s'ennuie un peu. Voilà.
En tout cas, merci Eric d'avoir répondu à Bazookast avec cette honnêteté, cette lucidité. Longue vie à FCOM et à toi et Laurent.
C'est génial. Très bonne journée. Au revoir.
Merci Eric.
Voilà Eric Morand pour une interview qui était vraiment très intéressante, que j'ai pas pu diffuser dans la longueur, mais que je vous diffuserai au fur et à mesure sur Bazookast pour animer un peu entre les mises à jour. Le montage que j'ai fait ici ne concerne qu'un tiers de l'interview. En plus, j'ai eu des problèmes techniques qui m'ont fait saucissonner un peu les questions et les réponses. À écouter dans son intégralité cette interview, pour aussi bien pour les fans de FCOM que les personnes qui sont intéressées par ce qu'est une structure telle que FCOM aujourd'hui, les enjeux artistiques, les enjeux économiques. Bref, je le remercie, il a répondu tout de suite présent à ma demande d'interview et vous découvrirez le reste de l'interview les jours qui viennent sur Bazookast. L'artiste que vous avez entendu en boucle pendant l'interview d'Eric Morand n'était pas un artiste d'FCOM, puisque je respecte la dure loi de la SACEM. Tous les morceaux que je passe dans Bazookast sont sous licence Creative Commons, et j'ai passé un morceau d'Electron X. Un morceau qui s'appelle Pied du Soir. Alors, Electron X, je regarde mes notes, je crois que c'est lui. Alors, il vient de Paris, Electron X, il fait partie du label, de la cellule de production Copyleft, qui s'appelle Alpha Tester. Et le morceau que vous êtes en train d'écouter, très groovy, c'est Pablo Perez. Et le morceau s'appelle Rome. Eh bien, on arrive à la fin de ce Bazookast saison 1, épisode 8. Rendez-vous donc à l'épisode 9 très prochainement. Vous n'attendrez pas de moi. On va revenir avec une sélection plus éclectique et le bon vieux retour du rock and roll avec de grosses nouveautés. Je vous parlerai aussi du nouvel album de Jay May, une fidèle de l'émission. On écoutera aussi du très bon hip-hop. Bref, j'ai le panier plein pour la prochaine émission. Et elles vont être bonnes, les chansons. Allez, à plus tout le monde et à la prochaine. Merci de rester fidèles. Ciao.